aujourd'hui, c'est ce rappel du thème de l'adoration. C'est le cœur de notre Église, c'est le cœur de ce que nous sommes. Et dans ces événements que plusieurs d'entre nous vivent, qui ne sont pas faciles, eh bien c'est comme si Dieu nous disait « Adore-moi ». Et j'aimerais juste relever, on ne va pas être très long, mais il y a un passage dans Luc au chapitre 4, vous connaissez, Jésus va vers à Nazareth, et puis il déroule le rouleau d'Ésaïe, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux captifs, libérer les prisonniers ». Il a dit « Ce jour est arrivé, une année de grâce, et ce jour est arrivé ». Et dans Marc 6, on voit les réactions, et les réactions sont absolument étonnantes. Les gens disent « Mais d'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Comment de tels miracles se font-ils par ses mains ?» À Nazareth, il est Marc 6. Les gens avaient entendu parler de ces miracles. « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de José, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ?» Et il était pour eux une occasion de chute. Alors pourquoi j'introduis par ce texte au niveau de l'adoration ? Un peu étonnant, c'est un texte justement où Jésus, il est dit, n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans ce lieu-là. Et en fait, c'est la première chose, c'est que si nous rabaissons Jésus à un charpentier, nous allons récolter des planches. Celui que nous adorons, si nous pensons que c'est un charpentier, dans ta vie, tu vas avoir des planches. Et ça, c'est le problème. Le nom de Jésus, ce qu'on met dedans, dans ce nom, ça dépend de la qualité de l'adoration, c'est ce qu'on met dans le nom de Jésus. Et vous savez que le nom de Jésus, les noms de Dieu, il n'y en a pas qu'un. Il n'y en a pas qu'un. Et parfois, on a connu Jésus Sauveur et on adore Jésus Sauveur. Il y a beaucoup d'autres noms. On a vu une fois un enseignant sur les noms de Dieu. Donc Jésus, à Nazareth, Jésus, c'est le charpentier, pas d'adoration. Pas de miracle, pas de règne établi. Et le fait de dire Jésus, ce matin, cet après-midi, on disait « Tu es sauveur, tu es Seigneur, tu es mon maître ». L'adoration, elle vient en qualifiant les noms qui sont justes. Si nous rabaissons Jésus à un charpentier, il ne pourra faire que des tables et des chaises pour nous. Donc, l'importance dans l'adoration de se rappeler qui est Jésus. Si on l'élève, on est transformé à son image. Donc voilà, Jésus est plus qu'un charpentier. Alors c'est sûr, il est aussi un charpentier, mais il est plus que ça pour nous. Et je crois que on n'a pas fini de découvrir les noms de Jésus dans l'adoration. On n'a pas fini de découvrir. Et c'est quoi ? Je pense que là, en tant qu'Église, Josué, rappelez-vous, était vraiment dans l'attente de Moïse. Il aimait cette présence de Dieu. Même quand Moïse quittait, Moïse et Jésus est resté. Et je pense que le chef de guerre est né dans l'adoration. Et je crois qu'il y a bien évidemment un lien entre l'adoration et la guerre. Et on voit ça dans Apocalypse, on l'a cité un peu la dernière fois. Et il est parlé par exemple tout au long des Écritures, mais dans le dernier livre en particulier des Écritures, il est parlé de cette armée céleste, l'armée de Dieu, l'armée céleste. Et cette armée, parfois, on l'imagine, bien sûr, avec des armes, des chars, etc. Mais cette armée, c'est d'abord, en premier lieu, une armée qui adore. En fait, cette armée, c'est un cœur, c'est une chorale. Cette armée, c'est un cœur d'ange qui adore. Voilà, c'est ça, c'est la première caractéristique de cette armée de Dieu. L'armée du ciel est une armée d'adorateurs. Et en fait, personne ne peut combattre spirituellement sans d'être d'abord un adorateur. Et c'est vrai, au niveau ici de Josué, il y a la vision de Caleb, il y a le chantier, il y a tout ça, il y a la ville, il y a les écoles, il y a l'éducation, tout ça. Et chaque fois, Dieu nous dit, reviens à l'adoration. Et plus elle est profonde, plus le bras va aller loin dans l'action et dans l'influence. Donc en fait, on marche sur deux jambes, on est toujours en déséquilibre quelque part. Alors là, on est un moment dans l'adoration, et tac, on reçoit des visions de Dieu, des révélations, et hop, on marche chantier, vision d'éducation, formation, etc. Et oh là là, on se perd dans des tas de choses à faire. Hop, adoration, voilà. Et ça, c'est une marche pour chacun d'entre nous, pas seulement en tant qu'individu, mais en tant que corps. Alors, le deuxième point, donc le premier point, c'était le nom de Dieu. Qui est Jésus dans l'adoration? Qu'est-ce que je mets dedans, hein? Deuxième point, c'est, et je pensais à tous ces malades, à ces parents qui, pour plusieurs d'entre nous, eh bien, commencent la vieillesse, la grande vieillesse, et il va falloir les accompagner dans un corps qui s'affaiblit, etc. Et l'adoration, en fait, notre adoration est testée dans les épreuves, et nous voyons que la véritable guerre, c'est une guerre d'adoration. Si on relit l'Apocalypse, Vito nous a un peu présenté dimanche dernier, on voit qu'il y a vraiment une guerre. Chacun veut l'adoration. Dieu veut l'adoration, puis il y en a un autre qui la veut aussi. Regardez, Apocalypse 7, tous les anges se tenaient autour du trône, et les vieillards et les quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Juste après, Apocalypse 13, « Et ils adorèrent le dragon, parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle ?» On a une montée d'adoration, à la fois du peuple de Dieu, et à la fois de l'ennemi et de la bête. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que, bibliquement, on a beaucoup de points de vue sur l'Apocalypse, hein, il y a beaucoup de choses, mais bibliquement, la lumière augmente en même temps que les ténèbres augmentent. Tout discours qui dit « c'est que la lumière » ou « c'est que les ténèbres » est partiel, est partial. Les deux augmentent, les deux adorations augmentent. Et c'est pour ça que, quand on voit l'attrait de l'adoration dans l'Apocalypse pour la bête, on pourrait dire, mais nous, jamais, jamais. Mais Dieu nous dit, approfondis ton adoration. Et vous savez, dans le tabernacle, tout ça, il y a tellement de bons moments. Et au bout d'un moment, on peut se dire, ben, ces moments, je les aime, je les veux, et bien sûr. Mais il y a des moments où tu es devant la mort, tu es devant la maladie, tu es devant ça et Dieu dit, où est ton adoration? Tu sens plus rien. Tu ne sens plus rien. Tu ne vois autour de toi que du dégât. Tu te demandes, mais Seigneur, est-ce que tu es toujours là? Et Dieu dit, c'est là que j'attends ton adoration. Et on voit ça encore dans Apocalypse 14. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout le peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel. Le jugement vient avec l'adoration qui monte. Voyez, adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Et plus loin, Apocalypse 14, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont ni repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête à son image. Donc vraiment, on voit des autels, deux autels d'adoration qui se confrontent. Et cet esprit, l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus dans l'adoration. C'est ça, c'est la merveilleuse révélation de Jésus qui déchire le voile qui empêchait de le voir et qui se fait voir à toute l'humanité et qui termine en gloire où le ciel descend sur la terre. Donc c'est vraiment ça le cœur de l'Apocalypse, mais dans une gigantesque bataille d'adoration. Alors, dans la bataille finale, l'aboutissement de la vie de chaque homme sera jaugé, en particulier par rapport à l'adoration. Au sein des conflits et des batailles, est-ce qu'on va s'incliner devant Dieu ou devant parfois l'ennemi? Voyez, l'établissement du royaume sur la terre, là où nous sommes, il y a le royaume de Dieu. Là où il y a l'adoration, un peuple qui adore, il y a l'adoration. Apocalypse 11, il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, il régnera au siècle des siècles. C'est une question de royaume qui vient. Et le royaume vient dans un climat d'adoration, et ce climat, il doit monter. Alors, la véritable adoration, on l'a chanté beaucoup tout à l'heure. Toute circonstance, tout concourt à mon bien. Le problème de ça, c'est qu'on a oublié le reste du verset. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il serait faux de dire tout concourt à mon bien. Tout concourt à mon bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment, de ceux qui adorent, de ceux qui aiment Dieu. Voyez. L'amour de Dieu est capital. On ne peut pas prendre cette parole simplement comme une vérité absolue pour toute l'humanité. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. De ceux qui l'aiment, de ceux qui le chérissent, de ceux qui adorent. Hein. Alors, on voit bien dans, par exemple, le but de la sortie d'Israël d'Égypte, c'était d'aller adorer Dieu. Voilà. Alors, il y a eu les plaies, il y a eu tout ça, il y a eu conflit d'adoration entre les dieux d'Égypte et le véritable Dieu. Il a fallu vraiment que ça soit ébranlé pour les faire sortir. Il a fallu qu'ils en aient marre de là où ils étaient pour adorer le vrai Dieu. Et quand ils sont arrivés dans le désert, ils ont commencé à murmurer, à se plaindre, etc. Il n'y avait plus d'adoration. Ils avaient quitté pour adorer. Et là où ils devaient adorer, ils se sont plaints parce que c'était chaud, parce qu'ils avaient faim, parce que ce n'était pas comme ils pensaient. C'était moins bien que l'Égypte. Où est-ce qu'elle est l'adoration ? Quand on est dans le désert, avant de rentrer dans une terre promise. Et ces gens-là sont morts dans le désert. Le désert était le lieu de rencontre avec Dieu. Les vrais lieux de rencontre avec Dieu, là où il nous attend dans une adoration cœur à cœur, c'est les lieux de désert, qui ne sont pas des buts en soi, mais qui sont avant une terre promise. Je sais que avant toute grande victoire, et on l'a déjà vécu beaucoup ici, il y a comme des resserrements, il y a comme des rétrécissements, il y a comme des pressions. C'est comme des accouchements quelque part. À chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui coince et on se dit mais c'est pas possible, on va plus pouvoir. Et c'est souvent, c'est toujours le prélude d'un élargissement si on reste dans un climat de foi et d'adoration. Personne ne pourra adorer dans les grands combats de demain, si on se plaint dans les simples attaques d'aujourd'hui. Et le livre de l'Apocalypse nous rappelle qu'il y a des combats. C'est Dieu, la révélation, la victoire et tout ça. Mais il y a de réels combats qui attendent. C'est pas rien quand même. Mais l'adoration aujourd'hui, Dieu nous attend, afin que on puisse adorer dans les grands combats. Donc, petit combat, déjà, il faut une grande adoration. D'accord ? Et ça sera un style de vie. Et Exode 7:16, tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. D'autres traductions, qu'il me rende un culte. Voyez ? Dieu nous a délivrés, pourquoi ? Pour le servir, pour l'adorer. En fait, Dieu nous a fait sortir de notre Égypte, pourquoi ? Pour l'adorer. Et dans l'adoration, on reçoit l'équipement, la révélation, la vision pour le terrain que nous avons à prendre. Exode 4, versets 28 à 31, Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées, tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin. Ils assemblèrent autour des anciens, tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron apporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ça, c'était avant. Ils sortent d'Égypte, il fait chaud, c'est pas marrant, qu'est-ce qu'ils font ? Ils commencent à murmurer, à râler, à se rebeller. Prosternation, adoration, et puis, quelques temps après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et l'adoration de ce peuple, elle était superficielle au départ. Elle était assez intéressée. Ah Dieu, tu vas nous faire sortir de l'esclavage. Je ne vais plus devoir peiner comme un esclave. Alors ça vaut le coup. Je me prosterne, j'adore. Je vois des miracles avec Moïse, c'est super. Waouh, la puissance de Dieu, ça va être génial. La mer rouge qui s'ouvre, waouh. Et après, oulala, ce n'était pas ce qu'on attendait. Et donc, on voit ici que l'adoration, Dieu voulait faire rentrer dans une adoration encore plus profonde. Et il les attendait dans l'adversité, et il les attendait dans ce désert. Rappelez-vous la parole d'Osée, la magnifique parole d'Osée, « Je l'ai conduit au désert afin de parler à son cœur. » Ça, c'est un Dieu qui veut rencontrer le cœur. Ça, c'est le climat de l'adoration, un cœur à cœur. Alors, l'ennemi a un accès facile dans l'âme qui n'est pas protégée par environnée dans un climat d'adoration. Et c'est pour ça que, entre autres, une des grandes raisons essentielles du rassemblement du peuple de Dieu. Pourquoi Dieu a ordonné qu'on se retrouve, qu'on se réunisse ensemble? Est-ce qu'il n'aurait pas pu dire chacun chez soi? Est-ce qu'il n'aurait pas pu dire chacun pour soi? Mais il dit non, le peuple doit se rassembler. Parce qu'en fait, comme un feu, on doit rassembler toutes ces braises pour qu'il y ait des grandes flammes. Et nous-mêmes, en tant que braises, sans ce grand feu qu'on vécu dans l'adoration tout à l'heure, qu'on vit régulièrement, eh bien nous sommes que des braises qui, si elles sont écartées, il n'y a plus rien. On a vraiment... Dieu a vu cela. Il a dit, voilà, on a besoin de cette adoration en tant que peuple. Le Seigneur sait que le cœur qu'il adora dans le désert, eh bien, continuera à l'adorer dans la terre d'abondance. Et je crois vraiment qu'il y a une terre d'abondance qui vient. Je crois vraiment qu'il y a un mieux. Je crois vraiment qu'il y a un règne qui s'installe. Que la petite pierre de David qui a touché Goliath, et ensuite ce David qui a commencé à régner, ça nous parle aussi de cette vision de Daniel, cette pierre qui a été détachée et qui est devenue une montagne et qui a commencé à remplir toute la terre. Ça, c'est la vérité aussi. Et par rapport à cette terre, apprendre, c'est vraiment la notion de climat d'adoration. D'ici, on a partagé déjà ici, au moins une ou deux fois, un texte que j'aime beaucoup. Et je vous invite à le revoir dans ce contexte de l'adoration et justement de ce que je veux faire passer ce matin, cet après-midi. C'est dans Genèse, on a ça au chapitre 29. Vous connaissez, mais on va le revoir. Excusez-moi pour les anciens qui ont déjà entendu ça, mais c'est tellement beau et c'est une telle belle révélation. Vous savez, c'est Jacob avec Léa et Rachel. Jacob qui tombe amoureux de Rachel, qui la trouve belle. Et alors Laban, son papa, lui dit, écoute, si tu la veux, c'est 7 ans de travail. Alors, il fallait vraiment l'aimer. Hein. Et alors, il dit, ok, il travaille 7 ans. Et vous savez l'histoire, il était trompé. Il y a eu Léa, il n'a pas eu Rachel. Et rappelez-vous, on veut se rappeler encore aujourd'hui, que parfois on a l'impression que il arrive à des moments où Dieu nous donne des Léas, quoi. Nous, on veut Rachel. La vision que Dieu nous a donnée, c'est Rachel. Le royaume de Dieu sur terre. La vision du royaume, la vision d'un pays qui est guéri, la vision d'un pays qui se lève pour Dieu. Et puis, on a Léa dans notre lit. Mince, c'était pas elle. On s'est fait rouler, là. Et ça, c'était le choc. Alors, c'était la tradition, c'est ce que vous voulez. Aujourd'hui, on a du mal à comprendre cette tradition. Hein. C'est plutôt une trahison, mais enfin bon. Mais Léa a donné à Jacob des enfants absolument que Rachel n'aurait pas pu lui donner. Et rappelez-vous ce qu'on... Vraiment, on devrait connaître par cœur ce passage. Dans le sens que, regardez, par exemple, verset 32, chapitre 29. Léa devint enceinte. Elle accoucha d'un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Ruben, car l'Éternel a vu mon humiliation. Et maintenant... mon mari m'aimera. Ça veut dire la vue, Ruben, une vision, une bonne vue. Parfois, on croit voir des choses, mais dans des situations qui ne sont pas celles qu'on a choisies, le but, c'est qu'on voit autrement. Le but, c'est qu'on voit avec les yeux de Dieu. Et qu'on commence à plus voir dans les apparences. On commence à voir dans l'invisible. Abraham, vous prenez la vie d'Abraham, en fait, c'est toute une histoire de quelqu'un qui a commencé par voir dans le visible, et plus il a vécu, plus il a marché avec Dieu, plus il voyait dans l'invisible. C'est une question de vue. Et donc, Rachel a donné un enfant qui s'appelle la vue. Quel beau fruit dans nos vies. Mais c'est Léa qui l'a donné. Imaginez que Jacob est tout de suite Rachel. Alléluia, gloire à Dieu, j'ai ma Rachel, c'est bon. Quelle vision, quel enracinement il y aurait. Voyez ? Alors les Rachel, elles ne viennent pas tout de suite. Elles sont précédées de Léa. Et puis vous avez ensuite, elle devint encore enceinte. Elle accoucha d'un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et m'a aussi donné celui-ci. Elle lui donna le nom de Siméon. Entendre. Entendre Dieu. L'écoute de Dieu, en fait, quand tout va bien, c'est bon, ouais, c'est super et tout ça. Mais parfois, on est là, les choses tremblent et Dieu dit, c'est là que je veux te parler. Je veux exercer ton oreille, maintenant. Dans ces situations, peut-être un peu difficiles, que tu n'as pas attendues, qui t'ont surpris. Et Dieu exerce ton oreille et tu as la capacité d'entendre. Le fruit de Léa, des situations, Léa, c'est entendre. Et puis vous avez aussi, elle continue, elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Et elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, c'est de lui que j'ai enfanté 3 fils, c'est pourquoi on lui donnera le nom de Lévi. Donc la tribu de Lévi, elle est née donc de Léa, qui était une femme qu'il n'a pas choisie. Une situation qu'il n'a pas voulu. Mais les situations qu'on ne veut pas produisent parfois plus de fruits que les situations qu'on aurait voulu. Et c'est là que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les situations et les circonstances qu'on n'aurait pas choisies de nous-mêmes. Et donc là, la capacité de s'attacher à Dieu. Il y a un moment, on est là, il n'y a plus que lui, quoi. Alors, l'économie là qui ne va pas bien, la Grèce, tout ça, tout s'effondre. Il y a longtemps que les prophètes parlaient de situations économiques où Dieu avait touché ça. Il touche les, comme en Égypte, il touche les idoles. Alors on dit, oui, oui, Seigneur. Mais ensuite, si ça touche notre porte-monnaie à nous, hein, là ça va commencer à, oh là là, nous aussi, le peuple de Dieu quand même, touché. Et si ça touche là, où sera encore notre adoration? Et c'est là qu'on dit, mais Seigneur, j'ai peut-être plus grand-chose, mais toi je t'ai. Et je m'attache à toi. Et ça, c'est Lévite. Ça, c'est... Nous sommes des Lévites. En fait, ces caractéristiques des tribus d'Israël sont celles du peuple de Dieu. Mais voyez, elles sont venues dans des circonstances qui n'étaient pas attendues. Et puis alors, ce qui est extraordinaire, elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit cette fois, je célébrerai l'Éternel. C'est pourquoi on l'appela du nom de Judas. Judas, la louange. Celui qui dit, je loue en tout temps. Je loue en tout temps. L'esprit de l'adoration, et c'est là je voulais illustrer ça, c'est qu'on soit dans l'abondance, qu'on soit dans les épreuves ou dans la patience, les choses qui n'arrivent pas, on sait qu'elles vont arriver, mais elles ne sont pas encore là, c'est dur. J'adore Dieu, j'ai choisi de l'adorer, j'ai choisi de m'attacher à lui, j'ai choisi cela. Et alors là, il y a vraiment des fruits qui viennent dans notre vie. L'adoration de Jésus à Gethsémané, la plus grande adoration, c'était quand il a dit « Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà ma vie, Seigneur. » L'adoration de Jésus, la plus grande sur terre, elle était faite au jardin de Gethsémané. Et de cette adoration-là, qui veut dire une vie livrée, comme Isaac a donné son fils, si un homme a pu donner son fils, Dieu ne pouvait pas faire autrement que donner le sien. À plus forte raison, quelque part. Et donc, il y a ici un message fort d'adoration. Je rappelle, la première fois que le mot adoration vient, c'est quand Abraham dit, je vais aller adorer à la montagne. Il amène Isaac, c'est quand même étonnant. Et bien, l'adoration de Jésus, qui disait non pas ma volonté, mais la tienne, ça a sauvé le monde. Ça a sauvé le monde. Il y a des adorations. On n'a pas la prétention que notre adoration sauve le monde. Mais l'adoration du peuple de Dieu amène le salut et amène la guérison. Et amène le royaume de Dieu. Ça on le sait. Parce que Jésus a dit, Dieu a dit, je suis au milieu de ceux qui m'adorent. Alors, voyez, sans une véritable adoration, il n'y a pas de véritable victoire et de combat spirituel. Hein, si on est un véritable adorateur, notre esprit exaltera Dieu, quelle que soit la bataille qu'on mène. Et dans ce combat, l'adoration crée une barrière de feu. Les adorateurs ne sont pas touchés par les flèches. Ils ne sont pas touchés. Parce qu'il y a un climat d'adoration. C'est comme l'homme Michelin. Vous connaissez la pub de l'homme Michelin? Les gros pneus, là. Vous pouvez lancer toutes les flèches que vous voulez. Hein. Il est pas touché, l'homme Michelin. D'accord? L'homme Michelin. Hein? Voilà. C'est vrai. Mais ça, je peux t'assurer que c'est quand même solide, hein, ces histoires. Bibendum, voilà. Et autre chose aussi, notre cœur, le troisième point, quatrième point, qui est protégé par l'adoration. Et en fait, on remarque une chose, c'est que qu'est-ce qui façonne nos âmes, en fait? C'est, bon, les rencontres, les choix qu'on fait dans la vie, mais aussi les circonstances. Les circonstances qu'on vit, ça façonne quelque chose chez nous, hein, chez chacun de nous. Alors, on n'a pas choisi parfois, mais ça façonne. Il y a un rôle de potier qui façonne et qui utilise ces situations-là. Eh bien, en fait, nos réactions aux circonstances façonnent nos âmes. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est en partie la couleur que nous avons, la personnalité que nous avons, c'est les réactions aux situations qu'on a eues et qui ont fait de nous ce que nous sommes. Alors parfois on dit, ben, j'aurais mieux aimé autre chose dans ce domaine-là, peut-être. Et ces réactions, on n'est pas obligé de garder toujours des réactions négatives ou mauvaises. Par rapport à, on peut au moment dire, maintenant ça suffit, je change, Seigneur aide-moi. Mais voyez, ces réactions, ces circonstances façonnent notre vie. Elle façonne. Quand Dieu dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu », c'est ceux qui vont reconnaître que dans toutes circonstances, il y a une main de Dieu qui est là. Même s'il y a derrière, il y a aussi l'ennemi, mais derrière, il y a encore la main bénissante de Dieu. Donc, reconnaître ces circonstances, reconnaître la main de Dieu, eh bien, ça façonne. Des bonnes réactions par rapport aux circonstances. Et Dieu nous attend dans les réactions. Parfois, on croit qu'on a fini avec un certain point, et puis on se retrouve dans une situation, mince, on est encore testé. Rappelez-vous, les parents qui sont là, quand il y a les jeunes enfants, moi j'ai vu récemment David et Emeline, alors ils ont le bébé qui braille, ils ont l'autre qui court partout. Alors, je dis, ça va? Ils ont dit, c'est chaud, hein, c'est chaud. Et oui, il n'y a plus de sortie, il n'y a plus de resto, il n'y a plus rien, il y a bébé et bébé. Et oui, et voilà. Et on apprend à donner sa vie. Et je dis, bienvenue au club, David. C'est bien. Petite tape, je dis, bon, maintenant c'est l'heure, j'y vais. Hein? Alléluia. On a donné. Mais je crois que l'adoration, c'est ça. On a appris à aimer en se donnant aussi. Il y a quelque chose, il y a des choses, on aurait pu... Alors, on peut se crisper en disant, mais non, je veux mes petites soirées, tout ça. Et puis tu te crispes, t'es mort, là. Avec les enfants, tu peux pas, tu dois lâcher ta vie, mon gars, sinon t'es fini. Tu lâches, il vaut mieux lâcher très vite au début, ça ira mieux après. Hein? Eh bien Dieu c'est pareil, il nous dit, ben voilà, il y a des circonstances, c'est moi qui les ai mises mon ami. Eh bien voilà, j'attends ta réaction, comment tu vas réagir. Et ces réactions, eh bien on s'encourage à vraiment être souple dans les mains de Dieu et puis à commencer à voir ces réactions de Paul, extraordinaire, Paul qui... Vous connaissez les passages, il reste dans la tribulation, dans l'angoisse, dans tout ça. Il est là, il est toujours là, il marche avec Dieu et il dit, ben, c'est afin que la gloire de Dieu vienne. Quelle vue. Jésus a dit, quiconque met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. Et l'adoration, c'est regarder à la limite, ni en arrière, ni en avant, mais c'est regarder à Jésus. Vous savez, dans le tabernacle, vous aviez deux chérubins, les anges, hein, avec... Et ils avaient le regard sur le propitiatoire, donc vers le bas, vers le lieu qui parle de sacrifice. Hein. Et puis, vous avez les ailes qui étaient comme des mains tendues vers le haut. Et en fait, ils étaient tout le temps en train de regarder, c'est une image, mais de regarder au Seigneur, à l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est l'adoration. Je regarde, Seigneur, à toi. Je me recentre sur toi. Un cœur d'adorateur permet de guérir, de restaurer l'âme. Et le navire qui nous transporte au travers des tempêtes, de l'adversité, c'est l'adoration. C'est l'adoration. Psaume 84, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie, la couve de bénédiction. C'est étonnant, ce verset ne dit pas « Dieu transforme la vallée ». Hein, je relis. Hein. « Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ceux qui placent en Dieu leur appui, ils la transforment en un lieu plein de sources. » Et ça, c'est la marche du chrétien. Là où il est, il transforme le lieu. Il n'est pas celui qui subit l'atmosphère. Tout à l'heure, parfois, en rentrant dans cette salle, moi, il y a parfois des... Vous savez, il n'y a pas la chair et le sang. Et parfois, on sent qu'il y a... Ça oppose, là. Alors, parfois, on peut se dire, c'est parce que je ne suis pas bien, parce que je suis fatigué, tout ça. Il y a des moments où tu dis, attention, mon ami, c'est une guerre aussi. Et là où tu es, alors tu pourrais dire, oh là là, ben ceci, je ne sais pas, moi, l'ambiance, elle n'est pas terrible. La prédication, ben, écoutez, ça n'a pas aidé. Hein. Puis la louange, je ne sais pas ce qui est arrivé, là, aujourd'hui, mais c'est un peu... Et on cherche des raisons. Et attention, on est très fort pour en trouver. Mais parfois Dieu dit, hé mon gars, là où tu es, toi, à toi de changer l'atmosphère. Ta prière, ta louange, n'attends pas les autres. Toi, tu changes. C'est toi, là où tu marches, tu changes l'atmosphère. Et ça, c'est l'héritage que Dieu nous donne, d'être des gens qui pouvons transformer les atmosphères de nos villes, de là où nous habitons, de nos maisons. Parce que comment pourra-t-on transformer l'atmosphère d'une ville si on ne peut pas transformer l'atmosphère de notre maison et de la première maison qui est notre cœur? Et donc, Dieu nous dit, voilà, l'adoration, continue à m'adorer. Et dans l'adoration, ce que j'ai, je te le donne. Cet échange se fait. Et le but de la création, je termine par là, c'est quand même l'adoration. On voit dans le livre de l'Apocalypse, toute la terre qui adore. Déjà dans les psaumes, on annonce cette terre qui va se réjouir, qui adore Dieu, toute création adore Dieu. Et le but de notre vie, c'est cette adoration. Donc voilà ce que je voulais dire. Sachons-nous recentrer régulièrement dans l'adoration. Merci Seigneur pour la chambre ici d'adoration qui existe. Merci pour les équipes qui font leur travail. Je pense à David, je pense à Rusty, je pense à tout ça. Petit à petit, je bénis le Seigneur pour l'adoration quand on a nos veillées au niveau du collège, etc. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui va grandir en plus. Et Dieu voudrait nous interpeller en nous disant, ne te décourage pas. Et quand la pression vient, c'est justement là que tu vas continuer à développer l'adoration. Le cœur de l'Église, c'est ça. C'est pas le faire. Il y a beaucoup de choses à faire et on devra les faire. C'est même pas le dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est d'abord être des adorateurs. Et de là, de ce fondement-là, je peux vous assurer, c'est un fondement inébranlable pour que les choses demeurent dans ce qu'on fera, dans ce qu'on dira, etc. Si le centre, ça reste cette adoration envers Dieu. Voilà, que le Seigneur nous aide, nous encourage. Pendant la louange tout à l'heure, j'avais cette vision de Josué dans la tente avec Moïse. Voilà, simplement, il était là. Il était là. C'est pas le gars à s'entraîner. Il est là, je vais être chef de guerre. Non. Dans la tente, le gars. Dans la tente, on dirait, mais c'est comme, il faudrait une caserne quand même pour préparer ces gens. Il n'y aura pas une tente. Ben non, dans la tente. Ça peut être le plus grand guerrier. Que ce lieu, Seigneur, demeure une tente. Une tente d'adoration. Où l'on reçoit tes instructions, ta révélation, ta force, où l'on reçoit des révélations du nom de Jésus, qui est bien plus qu'un charpentier, mais qui est encore plus qu'un sauveur, qui est encore plus qu'un seigneur, qui est un berger, qui est tous ces noms de la Bible, un conducteur, un restaurateur, un consolateur, tous ces noms de Dieu, Seigneur, nous voulons te rencontrer dans tous ces aspects, toutes ces facettes, Seigneur. Merci Jésus. Dans ta parole, tu dis arrêtez et sachez que je suis Dieu. Eh bien ce soir, Seigneur, merci pour les temps ensemble. Merci pour la tente de Josué. Et je te prie qu'au-delà de tous les travaux, les activités spirituelles même, on reste avec un cœur d'adoration. Garde-nous, Seigneur, et bénis-nous. Et je te prie pour tous ceux qui sont dans l'adversité aujourd'hui, qui ont leurs parents malades, qui combattent contre la mort et la maladie, ceux qui combattent contre le découragement, ceux qui combattent aussi contre une fatigue immense, je pense à Albert Sheka, je pense Seigneur à Thierry Laïc ce soir, je pense Seigneur au papa de Sandra, à la maman d'Olivier. Seigneur, nous élevons ton nom, Seigneur, et que dans la tente de Dieu, dans l'adoration, dans le climat d'adoration, et me tu fasses couler ta vie, ta guérison, ta restauration. Merci Seigneur, nous te louons Jésus. Merci pour les adorateurs au milieu de nous Seigneur. Merci Jésus. Amen. Amen. Voilà.